Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie.
Les petits et les grands lisent en même temps. L'émission qui parle littérature jeunesse, un mercredi sur deux sur Jet FM 91.2.
Bonjour ma petite Laura Archambault, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vue?
Bonjour Anne-Sophie, super bien, j'ai plein de projets, un nouveau livre qui est sorti en juillet, dont on
Yes.
va parler je crois, deux autres livres qui sont en préparation, et puis là je suis dans une résidence d'écriture depuis bientôt une semaine, en Dordogne, donc à
Wow.
l'autre bout, moi j'habite près de Lyon, donc voilà, un beau changement, une période d'autrice productive en ce moment.
Génial. Bah, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Alors, on est là pour parler en particulier aujourd'hui de Fini la couche et de Drôle de zèbre, qui est publié, de ce que j'ai compris, au Canada. Est-ce qu'ils sont disponibles en France, ces livres?
Alors, Drôle de zèbre est publié au Canada, Fini la couche est français. C'est
D'accord.
publié chez Lito, qui est une maison d'édition française. Alors moi, j'ai quatre livres. Mes trois premiers livres étaient des romans première lecture, publiés chez Bayer Canada, et puis le roman, l'album Drôle de zèbre. Ils sont disponibles en France, mais on les trouve pas spontanément comme ça dans une librairie. En fait, la librairie du Québec à Paris en a en stock, et n'importe quel libraire peut les commander à la librairie du Québec à Paris, qui est en fait un distributeur. Donc, quiconque est intéressé par les livres de Bayer Canada peut les avoir soit directement à la librairie du Québec à Paris, soit par son libraire de quartier, sans problème.
D'accord, donc on va chez son libraire, on lui demande gentiment et il nous trouvera Drôle de zèbre.
Voilà, normalement, il peut. S'il a vraiment mon nom, le titre, il n'y a pas de problème.
Ça marche. Alors, le Drôle de zèbre, j'aurais aimé savoir comment est née l'idée de ce livre. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Et comment est né cet album?
Alors, c'est moi, j'ai un processus d'écriture qui est très, très lent et très, très long. Donc, je dirais que tout ça a démarré dans les années 2010 avec les printemps arabes et la guerre en Syrie qui s'en est suivie, et tout l'afflux de réfugiés qu'on a vu arriver en Europe. En fait, j'ai trouvé ça très, très touchant, toutes ces histoires de familles qui devaient quitter leur pays, leurs attaches, leurs racines, leurs repères. À cause d'un pays en crise, de bombes qui leur tombaient dessus, et qui ont dû affronter mille difficultés, parfois mettre leur famille sur des bateaux pneumatiques pour traverser la Méditerranée, pour arriver dans un pays où ils avaient souvent rien, pas nécessairement de connaissances ou de famille, et pas toujours des gens qui les accueillaient à bras ouverts. Donc ça m'a beaucoup touchée, ça, j'avais envie de faire quelque chose, envie d'aider. On a essayé de se rapprocher d'associations pour accueillir des réfugiés chez nous. Ça n'a pas marché parce qu'on avait un appartement trop petit. Puis ensuite, on a été à Montréal sur une trop courte période. Et tout ça, c'est un processus un peu long. Puis de nouveau en France, mais à la campagne, loin des transports en commun, ce qui n'est pas du tout idéal pour des nouveaux arrivants qui doivent s'intégrer. Bref, ça n'a pas fonctionné. Je me sentais absolument impuissante. J'avais envie de faire quelque chose. Puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, toi, Mathilde, ta force, c'est l'écriture. Pourquoi t'écrirais pas là-dessus? Et m'est venue l'idée du zèbre. J'avais donc je voulais parler de l'accueil des réfugiés, de la difficulté qu'on peut avoir d'accueillir des gens qui sont différents de nous. Et je voulais passer par un animal plutôt qu'un enfant pour que ça aide à l'identification. Et l'image du zèbre m'est venue tout de suite parce que c'est un animal qui a des attributs physiques quand même très particuliers, cette robe bicolore. Et je voulais donc un animal qui est proche et à la fois différent, donc d'avoir les zèbres tels qu'on les connaît, noir et blanc, et d'autres zèbres un petit peu différents. Et la robe bicolore, bah, se prête à ce jeu-là parce qu'on peut la décliner de mille façons avec différentes couleurs, une robe rouge et bleu ou quoi que ce soit. Ou alors, transformer les rayures en petits pois ou en robe à carreaux. Finalement, c'est devenu des zèbres de couleur, les zèbres qui viennent d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Puis ensuite, ben, l'histoire s'est construite aussi très lentement dans ma tête, parce que voilà, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de temps pour prendre confiance en mon idée.
Un petit zèbre qui apprend la tolérance à son peuple en se faisant des amis de toutes les couleurs, au lieu de construire des ponts et des murs dans tous les sens, qui sépare les gens et les zèbres. Est-ce que c'est un peu le rôle des écrivains de faire ce genre de livre et de faire le boulot en écrivant des histoires, ou est-ce qu'on laisse ça aux gens sérieux et c'est trop difficile et trop sérieux, ou est-ce qu'on fait notre petite part en écrivant des histoires?
Ah, mais bien sûr, c'est absolument le rôle d'un auteur. Après, on n'est pas toujours obligé d'être sérieux et d'aborder des questions comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas de tabou et que les enfants sont capables, enfin, les enfants sont déjà demandeurs de toutes ces questions, toutes les questions qui traversent la société. Elles traversent les familles, elles traversent les enfants aussi, et ils sont demandeurs, ils veulent en discuter. C'est toujours un bon outil en famille, par exemple, d'avoir un album pour pouvoir discuter de ces questions-là avec les enfants. Alors, soit en discuter, si on est à l'aise avec ça, ou laisser l'enfant faire son travail, le texte infuse, et tout seul va permettre à l'enfant d'aborder la question. Mais c'est toujours un bon outil à avoir en famille. Alors non, il n'y a jamais de questions trop sérieuses pour les enfants. C'est sûr que non. Après, il faut aussi être dans la légèreté, être dans l'humour. Alors moi, même quand j'aborde des questions un peu difficiles ou sérieuses, j'essaie d'avoir une touche d'humour derrière, que je trouve que c'est plus facile et plus amusant comme ça.
Ça marche. Ce livre a eu un prix, de ce que tu me disais. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ouais, il en a même eu deux. Alors, il y en a un en 2023. Les deux en 2023. En fait, il y en a un, ça s'appelle La forêt de la lecture. C'est un prix qui est au niveau. Alors, moi, je suis québécoise et ce livre-là, donc on l'avait dit, est sorti au Québec. Donc, ça, c'est un prix. Les deux sont des prix canadiens. Il y en a un qui est un prix national. Donc, c'est des bibliothécaires qui se rassemblent et qui font une sélection de livres dans différentes catégories. Alors, il y a des catégories en anglais, des catégories en français, il y a des catégories d'âge. Donc, dans la catégorie album, ce livre-là, en 2023, a été sélectionné. Et ensuite, le livre est disponible dans des bibliothèques et des écoles un peu partout dans le pays. Et les enfants s'en emparent, lisent la sélection de livres et votent, font un choix. Ça dure plusieurs mois et au printemps est annoncé le vainqueur. Donc déjà, j'ai eu la surprise incroyable d'être sélectionnée et je suis tombée de ma chaise quand j'ai appris au printemps que les enfants avaient voté pour Drôle de Zèbre. Ça, c'était magnifique parce qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que de recevoir une récompense qui est décernée par le lecteur, l'enfant, celui pour qui on écrit.
Ben
Et
oui, j'imagine.
l'autre prix, ça a été un peu plus tard, c'était en novembre de l'année dernière, et je suis allée au Canada, il y avait un gala, donc je me suis déplacée pour le gala. C'est un prix qui est décerné, qui est organisé par la Grande Bibliothèque de Montréal. C'est l'organisme qui est un peu les archives nationales, en fait, du Québec. Donc, la Grande Bibliothèque, l'Université du Québec à Montréal, la Faculté d'éducation, et un organisme montréalais qui s'appelle La Relance. Ils organisent ensemble un camp littéraire pour les enfants, pour un groupe d'enfants qui sont membres de cette association, où les enfants, c'est des enfants de 6 à 12 ans, si je me souviens bien, ils ont une sélection de livres aussi qui a été sélectionnée par la Grande Bibliothèque, tous des livres autour de la question de la diversité et de l'inclusion. Et ils vont travailler toute une semaine sur ces livres. Donc, ils vont s'en emparer, ils vont en discuter, ils vont apprendre à faire la critique de livres, des illustrations également. Et à la fin, ils vont sélectionner un album. Et c'est les enfants qui ont préparé le gala qui avait lieu à la Grande Bibliothèque, les enfants qui ont animé le gala. Et voilà, donc c'était extrêmement touchant parce que là, en plus, on y était en personne et le prix a été remis par les enfants qui l'ont décerné.
Ouais, c'est génial.
Voilà.
Je ne sais pas si on a en France ce genre de camp de vacances, mais c'est à inventer de toute urgence si ça n'existe pas encore.
Ouais, je sais pas si ça existe, j'ai
Je
jamais
sais pas,
entendu
mais
parler de ça. Là, c'est quelque chose de
c'est.
tout nouveau. On était Drôle de Zèbre, on était le premier album, enfin le premier livre à recevoir ce prix. Ça s'appelle L'Accolade et ça a été créé donc en 2023.
D'accord, bah super idée.
Ouais, belle vie à
Super.
ce prix.
Ouais, super, super idée et très beau prix. Très très beau prix, félicitations. Est-ce que tu veux nous en lire un extrait de ton album? Est-ce qu'il y a un extrait qui te fait plaisir à nous lire?
Avec plaisir. Alors moi, je commencerai par le commencement parce que ça permet de situer le contexte et puis on entre tout de suite dans le style du livre. Alors je vais lire peut-être les 3-4 premières pages. Tu m'arrêteras si c'est trop.
Pas de souci.
Je vais décrire juste la première double page peut-être pour les illustrations pour qu'on se fasse une petite idée. Donc dans la première dernière double page, à gauche, on voit un paysage avec des petites maisons noires et blanches, pas mal de petites pâquerettes ou marguerites dans l'herbe et trois zèbres qui flânent ou qui cueillent des fleurs. Et sur la page de droite, on voit une rivière avec d'un côté de la rivière les zèbres noirs et blancs et de l'autre côté de la rivière des zèbres rouges. Voilà. De tout temps, les zèbres ont tiré une grande fierté de leurs rayures. Le blanc, c'est pour l'élégance. Le noir, pour le sérieux. Oh, ça ne les empêche pas de saluer les zèbres à rayures rouges de l'autre côté de la rivière. C'est important d'être poli avec nos voisins, expliquent les vieux zèbres. Leurs couleurs sont peut-être trop clinquantes, mais un zèbre blanc doit faire preuve de bonne manière, doit toujours faire preuve de bonne manière. Cependant, depuis quelque temps, il n'y a plus de zèbres rouges près de la rivière. Seuls quelques-uns galopent parfois au loin, poursuivis par des nuages noirs. Ce n'est pas pour déplaire aux zèbres blancs. Oh, ces couleurs extravagantes, ça fatigue l'œil à la longue. Un jour pourtant, alors que Tizèbre cueille des fleurs le long de la rivière, il tombe nez à nez avec un tout petit zèbre rouge. Ce zèbre rouge ne broute pas paisiblement comme ceux qu'on voyait avant sur l'autre rive, avant les nuages noirs. Celui-ci est recroquevillé dans l'herbe, trempé et grelottant. Voilà, c'était les deux premières planches, donc les deux premières doubles pages.
Ça marche. Merci beaucoup pour cette lecture. Il y a une
Mine de
question
rien.
qui me vient. Tu nous décris les planches avec la façon dont sont disposés les éléments, les personnages. Comment s'est passé le travail avec l'illustratrice? Il me semble que c'est une
Oui,
illustratrice.
Catherine, qui s'appelle en fait Catherine Plante, ouais. Alors, c'est une question intéressante parce que c'est très, très différent d'un livre à l'autre. En fait, surtout d'un éditeur à l'autre. C'est pas mal l'éditeur qui a la main là-dessus, qui décide comment ça marche. Avec Bayard Canada, on est dans une espèce de forme intermédiaire où je ne choisis pas l'illustrateur ou l'illustratrice et je reçois au fur et à mesure des croquis, le chemin de fer. Alors, le chemin de fer, pour ceux qui nous écoutent, tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que c'est une grande page où il y a un croquis de chaque page. Donc, c'est un peu le découpage, image par image, avec le texte aussi du livre. Et puis, j'ai reçu plus tard les images. Je ne sais plus si je les ai eues en noir et blanc ou directement en couleur. Bref, je reçois quelques étapes du travail que je valide. Mais pas beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que l'éditeur a eu beaucoup, beaucoup, je crois, d'interactions avec l'illustrateur. Ils ont énormément travaillé ensemble parce que l'illustratrice, ensuite, pour un travail que je voulais faire, un atelier que je voulais mener, m'a envoyé certaines planches. On voit les commentaires de l'éditeur, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Tout comme il y a eu beaucoup d'allers-retours entre moi et l'éditeur pour les corrections, pour changer du texte, raccourcir par-ci, par-là, rajouter des trucs ici et là. Pareil entre l'éditeur oui, l'éditeur et l'illustratrice, mais beaucoup moins entre l'illustratrice et moi. Là, c'est un choix de l'éditeur, en fait. Avec Lito, le prochain livre dont on va parler, Fini la couche, là, on est carrément à un extrême où j'ai connu très tard le nom d'illustratrice et j'ai reçu le produit fini, sans
D'accord.
voir jamais de croquis ou quoi que ce soit. Alors, j'ai eu une chance énorme avec Fini la couche parce que j'ai adoré son travail à
Ça,
Charlotte
c'est une
Hamelin.
bonne chose.
Ça aurait pu être le contraire, j'aurais pu mal tomber. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est très, très mignon, très rigolo ce qu'elle a fait.
Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir travaillé plus en amont avec l'illustratrice sur ça? Alors, tu dis que tu as adoré, c'est parfait. Est-ce que c'est, comment dire, c'est un choix de l'éditeur? Est-ce que c'est un choix que tu aurais fait? Ou est-ce que c'est un choix que tu respectes parce que finalement ça s'est très bien passé? Ou est-ce que tu referais différemment? Ou est-ce que le fait de travailler
Alors,
comme ça, de ne pas choisir l'illustrateur, que ça soit pas tellement, que le travail se fasse après et pas tellement en amont?
en fait, je travaille avec un autre éditeur qui s'appelle Alice Jeunesse, qui est un éditeur indépendant belge, qui lui est à, je dirais, l'autre extrême. Bon, c'est pas un extrême, mais lui, avec lui, on choisit ensemble l'illustrateur et le travail avec l'illustrateur se fait vraiment à trois en fait. Il y a comme un dialogue, un trilogue, je sais pas comment on dit, entre l'éditeur, l'illustrateur, l'auteur. En fait, toutes les communications passent par tout le monde. Donc, si moi j'ai un questionnement sur l'illustration, ben, j'écris à l'illustrateur et à l'éditeur. quand, à chaque fois que l'illustrateur envoie un croquis, un dessin, quoi que ce soit, j'en suis informée, je donne, j'ai mon mot à dire, etc. Très honnêtement, c'est la façon de procéder que je préfère parce que j'ai le plus mon mot à dire dedans. Après, je sais que pour Drôle de Zèbre, l'éditeur et l'illustrateur ont vraiment, vraiment travaillé de pair, ont vraiment beaucoup travaillé ensemble et ça donne un très bon résultat. Je ne suis pas sûre que j'aurais eu beaucoup de valeur ajoutée parce que moi, je n'ai pas vraiment une vision visuelle. Je suis très, très mauvaise pour repeindre les murs de ma maison. Je le repeins 4 fois avant d'être contente du résultat. Enfin, je ne sais pas où placer un élément dans une page. Je n'ai pas un cerveau de graphiste du tout. Donc, ma valeur ajoutée n'est pas énorme. C'est plus sur ce qui ne concorde pas. Par exemple, si là, c'est arrivé quand ils m'ont envoyé le produit plus ou moins fini, il y a une illustration, mais ça, en fait, il y a un truc qui ne va pas avec le texte. Mais là, il était trop tard, donc c'est mon texte qu'on a légèrement modifié. Ça change rien dans l'histoire, hein. C'était vraiment que moi, sur une page, je laisse entendre qu'il y avait une foule et en fait, on voit deux zèbres sur la page. Donc, on a un petit peu modifié le texte parce que ça faisait bizarre une foule avec que deux. Voilà, des petites choses comme ça où finalement, c'est moi qui ai fait le changement plutôt que l'illustrateur parce que le dialogue entre nous deux est arrivé un peu tard. Mais franchement, c'est pas très grave.
Ça marche. Non mais c'est très intéressant là. C'est très intéressant de voir comment c'est fait
Voilà.
et de voir que le point de vue avec le voilà de différence que tout le monde ne travaille pas de la même façon et que c'est d'une façon complémentaire, ça aide à se faire une idée
Ouais.
de ton travail, de ce que tu
Après,
fais.
avec d'autres albums que j'ai fait avec Alice Jeunesse, j'avais il y a un album qui s'appelle Papa Max et Papa Lou, où c'est que du dialogue entre deux garçons. Et par contre, j'avais des didascalies. Il n'y a aucune narration, mais moi, j'expliquais sur chaque planche à peu près ce que je voyais. Et en fait, c'est deux petits garçons qui débattent de quelque chose, stéréotypes de genre, homoparentalité, trucs comme ça. Et en gardant une petite fille qui, en fait, fait tout un bazar dans la chambre progressivement pendant qu'ils parlent et eux s'en rendent pas compte. Et moi, j'imaginais chaque planche étant la même image, mais avec le bazar qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et l'illustratrice n'a pas fait ça du tout. Au début, ça m'a un petit peu perturbée, déstabilisée, parce que ce n'est pas l'image que j'avais de mon livre en tête. Et ce n'est pas ce que j'avais écrit dans les didascalies. Mais finalement, elle est partie sur l'imaginaire des garçons. Elle a ajouté plusieurs couches sur l'image. Et elle a vraiment ajouté une poésie au texte qui n'y était pas, en fait. Donc, elle a vraiment amené le livre à un autre niveau. Et si il y avait, pourtant on a beaucoup dialogué en fait. Là, c'était avec Alice, on pouvait parler. Mais en fait, je trouve ça très important de laisser une grande, grande liberté à l'illustrateur parce que c'est un artiste. C'est lui qui a la vision esthétique du livre. Moi, je l'ai pas du tout. Et je trouve c'est comme confier son bébé, avoir confiance que tu confies ton bébé à quelqu'un et qui va te ramener un enfant qui a grandi et qui a quelque chose à t'apporter, quelque chose à te dire. Et c'est ça qui se passe justement quand on laisse un peu, quand on prend un peu de recul et qu'on laisse soit l'éditeur faire le travail avec l'illustrateur, soit l'illustrateur prendre le texte et l'amener là où il en a.
Ça marche, donc un album jeunesse, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça fait un peu comme quelque chose où tu travailles en équipe et tu es obligé de faire confiance à tes coéquipiers et à amener un résultat qui, à la fin, va être un résultat commun. Non, ça fait plaisir à entendre.
Oui.
Est-ce que tu veux qu'on parle de Fini la couche maintenant?
Oui,
On peut parler de Fini
si
la
tu veux.
couche. Ce sont des animaux du jardin qui éduquent un petit héros à enfiler une culotte à la place de la couche. Et ils font des bêtises avec un petit peu pour apprendre à s'en servir. Comme dans Drôle de Zèbre, ce sont des animaux qui nous apprennent un peu à bien nous comporter et à accepter le changement. Est-ce que c'est quelque chose que tu reprends souvent dans tes livres? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur ou c'est juste un hasard?
Déjà, est-ce que j'ai des animaux dans mes autres albums? Non, je sais pas. C'est les deux seuls pour le moment où j'ai des animaux. Donc, il n'y a que ça. Par contre, je dirais pas que c'est les animaux qui apprennent à l'enfant à mettre une culotte. Lui, c'est tout à fait comment se servir une culotte. Ce qu'il n'a pas, c'est la volonté. Il en a rien à faire de se mettre une petite culotte. Il est très content avec sa couche. Ce que les animaux font, c'est qu'ils apportent de l'humour. Et en fait, quand on manque de motivation pour quelque chose, le faire en riant, c'est toujours plus facile. Donc, voilà, c'est plus ça. Et puis, c'est ce que ça apporte à l'enfant aussi, c'est que ça dédramatise la culotte, tout ça, ça la rend très, très rigolote. Parce que les animaux en font n'importe quoi, en fait. Ils comprennent pas ce que c'est qu'une culotte. Donc, ils l'utilisent comme chapeau, comme n'importe quoi. Donc, oui, c'est plutôt comment l'humour aide à franchir le pas ou à faire des choses qu'on n'a pas trop envie de faire. Puis, dans la
D'ailleurs,
vie, c'est comme ça, hein. C'est tellement plus facile de faire quelque chose avec humour, surtout quand on traîne de la patte.
quand un défi est un peu trop gros, on fait une blague et ça passe mieux.
On fait une blague ou on le fait avec le sourire.
Ouais,
Enfin, c'est
ça
toujours
marche.
plus facile de faire un rire. Une blague, non, je ne suis pas du genre très blagueuse, mais juste voir le
En
bon
tout cas,
côté
là,
des choses. Enfin.
c'est très pédagogique, c'est sympa. Est-ce que tu as des routines d'écriture? Par exemple, est-ce que tu écris plutôt le matin ou l'après-midi? Est-ce que tu te lèves en disant il faut que j'écrive de telle heure à telle heure? Est-ce que tu manges quelque chose avant d'écrire pour te donner des forces ou de la motivation? Ou est-ce que tu
Non,
écris
j'ai
quand
ouais,
bon
non,
te
j'ai
semble?
pas du tout de routine d'écriture. Je suis alors une seule chose que j'évite de faire, c'est d'écrire le soir. Ce serait peut-être le moment où j'écrirais le mieux, mais en général, après, les idées tournent et ça m'empêche de dormir. Donc voilà, j'évite ça parce que j'ai rien que je déteste plus qu'une nuit blanche. Non, je suis plutôt très j'aurais dire ce mot, procrastinatrice. Voilà. Et donc, c'est ma routine, c'est plutôt de ranger avant d'écrire, dire que si la machine à laver n'est pas en marche, il bah, faut que je parte ma machine à laver, c'est la vaisselle, il faut que je la fasse. Voilà. Quand il n'y a plus rien qui traîne, tout ça, là, je peux m'installer pour écrire. Donc, je suis pas hyper, hyper efficace. C'est pour ça que la résidence d'écriture, c'est génial, parce que je suis dans une petite maison où il n'y a pas, elle est bien meublée, tout ça, mais il n'y a pas énormément de choses. J'ai amené ma petite valise, donc il n'y a pas grand-chose qui traîne. Je n'ai pas beaucoup de prétextes à la procrastination, alors je suis plutôt efficace, je travaille bien, c'est cool.
Ça marche. Et est-ce que à ce propos, tu as des projets? Est-ce qu'il y a des choses dans les cartons? Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir? À quoi est-ce qu'on
Oui.
doit s'attendre dans l'avenir qui vient?
Alors, j'ai deux livres qui sortent au printemps. Un chez Lito. Donc, Lito, c'est la même maison d'édition que Fini la couche. C'est un tout petit livre qui s'appellera, je crois, Saperlicarotte, viens que je te croque. Et le deuxième livre, je suis en cours de réécriture avec une nouvelle maison d'édition. Enfin, elle n'est pas nouvelle, mais nouvelle pour moi, Circonflexe. C'est une histoire de poules. J'ai des poules à la maison et donc elles m'inspirent beaucoup. Donc c'est une histoire de poules qui va sortir pour Pâques à peu près. Et sinon, j'ai deux autres livres pour lesquels on vient de trouver des illustrateurs où on est en train d'en chercher avec Alice Jeunesse. Et sinon, je travaille sur un projet de sentier. Raconter. Alors, un sentier avec des panneaux, enfin avec des supports qui racontent une histoire près de chez moi dans l'Ain. Ça, c'est très excitant parce que j'avais encore jamais fait ça. Donc là, c'est des arbres qui parlent et qui interpellent le marcheur.
Génial, donc ça va être un sentier de rando bientôt où on va
Ouais,
pouvoir
alors c'est un
écouter tes
sentier très
histoires.
court, non, les lire. Alors, on ne sait pas encore s'il y aura une version
Ah
audio.
d'accord.
Là, c'est plutôt de la lecture. Et c'est excitant aussi parce que moi, j'ai l'habitude alors soit de l'audio, soit du livre comme support. Et là, bah, c'est la communauté de communes qui porte le projet et qui est en train de rechercher des artisans pour trouver différents supports pour les différents, je dis panneaux entre guillemets, parce que ce ne sera pas justement des panneaux. Il y aura des supports différents, en fait, d'un bout d'histoire à l'autre. Et c'est
Génial.
excitant de voir un peu comment ça va se passer, quels artisans vont s'en emparer, qu'est-ce qu'ils vont en faire.
Génial. J'ai une dernière question. C'est la séance des portraits chinois.
Oui.
J'aurais aimé savoir si Drôle de Zèbre, par exemple, était un moment de la journée, ce serait lequel?
Je dirais le matin, parce que le matin, tout recommence, on peut tout créer, tout est possible encore. C'est un peu un livre qui parle de tous les du champ des possibles.
Ça marche si c'était un végétal.
Oh ben alors là, ça c'est facile. Le livre est rempli de coquelicots. Alors c'est les coquelicots. En plus, il n'y a rien de plus beau qu'un champ de coquelicots au printemps, le matin, avec la lumière du soleil levant.
Si Drôle de Zèbre était une matière au collège.
C'est plus difficile. Comment ne pas rebuter mes lecteurs? Alors, je dirais une langue étrangère. Alors en français, je ne sais plus comment on dit, pas l'anglais, mais la langue d'après, on dit la deuxième langue,
Deuxième
la
langue vivante.
troisième langue, la deuxième langue vivante. Alors pour moi, ce serait l'espagnol, parce que pour moi, c'est la langue des ponts, c'est la langue des découvertes, c'est la langue de l'autre et de l'ailleurs. J'ai passé quelques années de ma vie quand j'étais toute petite au Pérou. Donc c'est un peu aussi une espèce de langue maternelle, sans être ma langue maternelle. Une langue qui a tout un bouillonnement, en fait. Voilà. Donc, l'espagnol. Ou
Ça
la langue
marche.
étrangère pour quelqu'un qui serait plus porté vers l'allemand ou autre chose.
Et la dernière, si Drôle de zèbre était une recette de cuisine.
Alors, je prendrais une recette réconfortante. Peut-être le pot-au-feu de ma maman. Ou pour les végétariens, parce qu'on est un peu végétarien. Donc, pot-au-feu, j'en mange rarement, mais quand même, ça me donne envie. Un potage d'automne avec des courges, des patates douces, des pois chiches, tout ça bien mélangé, bien chaud, avec du pain maison à côté.
Ça marche. C'est une très bonne réponse. On va essayer de faire ça. Donc, on recommandera de cuisiner un potage au potiron pour accompagner tes livres.
Ouais, alors, dedans, le petit salto, là, il est réconforté par un potage au chou-fleur. C'est peut-être pas moi ma soupe préférée, mais lui, il aime bien en tout cas.
Ça marche. J'ai une dernière question subsidiaire. Est-ce que quand tu écris, j'ai une dernière question subsidiaire parce qu'on a le temps. Est-ce que tu fais un plan? Est-ce que tout est. Ou est-ce que tu jettes l'histoire et après tu structures? Ou est-ce que tu fais un plan, tu as le début, la fin, tu sais où tu veux en venir? Ou est-ce que quand tu commences à écrire, est-ce que tu connais déjà la fin? Pas
Ouais.
tellement.
En général, je sais pas trop où je vais. Parfois, j'ai toute l'histoire dans ma tête, mais c'est assez rare. En général, je suis coincée, j'ai pas la fin, et des fois, mon histoire, elle traîne des années dans un placard parce que je trouve pas la fin. Et elle me vient plus tard quand je l'oublie et que je la ressors du placard. Je dirais que les plans. Bon, déjà, j'écris surtout des albums. C'est court un album, donc le plan, il pourrait être plus long que l'album, à la limite. Mais j'ai tendance, en fait, j'ai toujours peur que le plan m'enferme, que ce soit un cadre trop strict, parce que je me laisse beaucoup, beaucoup guider par le son des mots. En fait, je commence une histoire parce que soit j'ai un début d'histoire en tête, ou une phrase, ou une image, et puis ensuite, souvent, c'est un mot qui en entraîne un autre, et comme ça, je déroule le fil, mais c'est le son des mots, ça peut être le rythme, une rime qui va m'amener là où je pensais pas aller. En fait, je vois ça un peu comme être dans une barque, avoir fixé un point à l'horizon, me dire je vais vers ce point-là. Et puis, le courant m'entraîne ailleurs. Je donne des coups d'aviron pour essayer de retourner vers le point que j'avais fixé au départ. Mais finalement, le courant est plus fort et il va m'amener là où je pensais pas aller, un endroit que j'avais pas nécessairement en tête, que j'ai jamais exploré. Et c'est tant mieux parce que ça me permet de découvrir d'autres choses. Alors, des fois, je chavire en chemin. Bah, tant pis, je recommence, je pars ailleurs. Parfois, ça va m'entraîner dans des rapides un peu compliqués. Et parfois, je vais découvrir un paysage extraordinaire. Mais je vais rarement là où j'avais prévu au départ. Après, avec mes petits romans, ça m'est arrivé d'écrire des plans parce que c'est des romans qui entrent dans une collection. Qui a une espèce de cahier des charges qui est assez strict. Et une fois que j'ai écrit le premier, les deux autres, j'avais déjà les personnages, tout ça, je savais que ça allait être 3000 mots, 8 chapitres. Et donc là, j'ai écrit un plan et je m'en suis tenue au plan. Mais c'est différent parce que j'avais déjà des personnages, j'avais déjà une façon de parler, une personnalité. Donc je pouvais un peu moins dériver comme ça. Mais sinon, j'aime bien me laisser entraîner par le courant.
Ça marche. C'est une très bonne réponse. C'est génial. Ça fait un peu comme si tu écrivais de la musique. En fait, on n'est plus trop sûr si on a écouté de la musique ou si on a écouté de la littérature. C'est très intéressant. Ok,
Merci.
bah écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter ou des questions auxquelles je n'ai pas pensé?
Non, comme ça, pas spécialement, non. J'ai rien de spécial à ajouter.
Ça marche.
Non, j'espère que ça donnera envie à certaines personnes de découvrir Drôle de Zèbre parce que c'est vrai que ce livre-là, il a une belle vie au Canada, mais moi j'habite en France. Et il circule pas beaucoup ici. Moi, je l'emmène dans des salons du livre de temps en temps, dans des classes, mais j'aimerais bien qu'il ait un plus grand rayonnement. Je pense qu'il va toucher des gens. J'espère que
Ça
ça donnera
marche.
envie.
On est là pour ça.
Bah écoute Mathilde, merci beaucoup d'avoir répondu présente. C'était un plaisir, ça nous fait très plaisir, on est très fiers de t'avoir accueilli. On a eu Benoît Groslot déjà, maintenant il y a toi, il y aura probablement Claire Duvivier très bientôt. Donc voilà, ça nous fait très plaisir de se recevoir et on souhaite une très belle vie à Drôle de Zèbre et à Philippe Lacouche.
Merci beaucoup, ça m'a
Et
vraiment
beaucoup.
fait plaisir aussi. Et belle vie à ton émission, j'espère que ça va
Merci.
marcher, qu'il y aura une belle audience.
Ça marche, merci beaucoup.
Mes petits et mes grands listes en même temps, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours sur ChatFM 91.2. Nous irons